Afficher.
Oui, pas de souci. Bon.
Ben bonjour à tous. Alors, pour choisir le texte de cette prédication, j'ai juste suivi, à un moment, il y a eu des plans de lecture de la Bible qui ont été mis à disposition, et je me suis dit, tiens, c'est cool, comme ça, les gens, ils auront lu le texte avant, pour ceux qui ont suivi ce truc, donc c'est 1 Corinthiens 8. Je vais déjà faire un contexte sur qu'est-ce que la lettre, l'épître aux Corinthiens. En fait, c'est un gars qui s'appelait Paul, qui Jésus lui a donné la responsabilité de prendre soin des premières églises chrétiennes. Et alors, il en a fondé quelques-unes, et il envoyait des lettres régulièrement, il recevait des nouvelles pour les remettre dans le... Je vais dire droit chemin, mais oui, c'est ça, pour les aider sur différentes questions. Alors, je vous propose qu'on passe directement à la lecture du texte. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance, dites-vous. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour lui fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Au sujet de la question, peut-on manger de la viande sacrifiée aux idoles? Nous savons qu'il n'existe pas d'idoles dans l'univers. Il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais, pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns encore, marqués par leurs habitudes de rendre des cultes aux idoles, continuent à manger de la viande avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors leur conscience qui est faible se charge de culpabilité. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Suppose en effet que l'un d'entre eux voit, toi, l'homme éclairé, assis à table dans un temple d'idoles. Sa conscience va-t-elle pas l'encourager, lui, mal affermi, à manger de la viande sacrifiée aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère pour lequel Christ a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ lui-même. C'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Donc dans ce texte, on voit que l'église de Corinthe est confrontée à un problème. Peut-on manger de la viande sacrifiée aux idoles? Alors, à Corinthe, on sacrifiait des bêtes à des dieux païens. Alors, j'ai oublié le nom des dieux, hein, mais... Et une part de la viande était pour la divinité. Une autre part était mangée dans des fêtes et des banquets publics liés à ce sacrifice. Et le reste était vendu au marché à bas prix. Ce genre de pratique était monnaie courante. Cela faisait partie de la vie communautaire. On allait faire des sacrifices comme on irait, nous, au resto pour fêter telle ou telle chose. Et les chrétiens devaient y être confrontés avec des invitations du style « Kerdum souhaite votre présence à la table du Seigneur Sapiris au Saperum demain le 15 à 9h pour célébrer un repas au temple pour le premier anniversaire de sa fille. » Bon. Une autre situation serait que par manque d'argent pour faire des économies, la viande sacrifiée au marché soit moins chère, donc soit achetée. Donc, la question demandée à Paul est alors, dans ce contexte-là, peut-on manger de la viande sacrifiée quand on est chrétien? Alors déjà, deux questions qu'on pourrait se poser. En quoi ça nous concerne? C'est quand même un temps un peu lointain. Eh bien, la viande sacrifiée aux idoles, bon, c'est plus d'actualité. Mais derrière, la vraie question, c'est que faire quand on est face à un problème et que la parole ne traite pas spécifiquement? Que faire, par exemple, quand on se pose des types de questions du style peut-on aller au cinéma? Et quel film peut-on regarder? Quelle musique écouter ou jouer? Puis-je aller en concert ou en boîte de nuit? Et plein d'autres questionnements concernant des activités semblables. Et là-dessus, les chrétiens se divisent et on ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Donc, à l'époque de Paul, du coup, à l'église de Corinthe, il y avait une division. D'une part, il y avait une part de l'église qui était sûrement d'origine païenne, avant d'être chrétien, qui pratiquait l'idolâtrie et qui disait non, surtout pas. On est chrétien, on ne peut pas retourner dans nos anciennes pratiques. On a un seul Dieu, pensant sûrement que cette viande eût contaminée par l'idolâtrie. De nos jours, ça pourrait être, par exemple, des personnes dont le foot a été une idole avant et avant d'être chrétien, et ils disent non, surtout pas. On ne peut pas aller voir un match de foot, c'est de l'idolâtrie. L'autre partie de l'Église, qui avait soi-disant la connaissance dans le texte, pouvant par exemple citer le psaume 115, du 3 à 6, Notre Dieu est au ciel, il fait toutes choses, tout ce qu'il veut, leurs idoles sont d'argent et d'or, elles sont ouvrage de la main d'homme, elles n'ont pas de bouche. Et ne parlent point, elles n'ont pas d'yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles, elles n'ont pas d'oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Autrement dit, les idoles n'existent pas. Elles sont que des cailloux. La viande n'est que de la viande. Rien n'est impur en soi. Ce que Paul va confirmer de versets 4 à 6, je cite au sujet de la question « Peut-on manger la viande sacrifiée aux idoles ?» Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers, il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes et terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux au Seigneur, mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et nous sommes. Donc voilà, il y a une division dans l'Église, bravo. Voilà. Mais alors, que dit Paul pour répondre à ce problème? Eh bien, il nous parle de connaissance et il nous parle d'amour. Paul nous dit déjà au verset 1, Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous, c'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux, l'amour lui fait grandir dans la foi. Et c'est vrai, une personne, même si pleine de connaissances, sans amour, ça fait pas de lui une bonne personne. Pourtant, on parle de connaissance morale sur ce qui est bien ou mal. Et bien quand on regarde même les personnes très éduquées comme des dirigeants, bien ça fait pas forcément d'eux des bonnes personnes. Enfin, pour un grand nombre en tout cas. Même un croyant connaissant toute sa Bible point par point n'est pas forcément une bonne personne. Regardez le diable, il connaît toute la Bible, il a même tenté Jésus avec des versets bibliques. Sauf erreur de ma part, je ne crois pas que le diable soit une bonne personne. J'imagine. En tout cas, voilà, supposition. Alors, c'est une chose qui différencie le christianisme des autres religions. C'est qu'elle ne se base pas seulement sur des règles morales. Après, certains du courant plus libéraux diraient que si, mais ce n'est pas un ensemble de règles sociétales que nous devons privilégier. Ce n'est pas des dogmes et tout ça que si on respectait, toute la société irait bien. Non, ce que la Bible nous demande de privilégier, c'est l'amour. Et en plus de ça, Paul nous dit au verset 2 et 3, Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Sous-entendu, vous croyez connaître ? Eh ben non, c'est pas comme ça qu'il faut connaître. Connaître vraiment, c'est ne pas s'imaginer ou prétendre connaître. C'est un peu le « plus je sais que je ne sais rien ». On dit que c'est Socrate qui le disait. Quand on regarde, en fait, ça s'appelle simplement l'humilité. Toujours envisager que l'on n'a pas forcément raison. Laisser place à la remise en question. La crainte de Dieu est le commencement de l'intelligence. On peut lire ça dans les Proverbes. Ça passe par reconnaître notre petitesse face à l'immensité de Dieu et nous dire que, au final, on est qui, nous, pour prétendre avoir la vérité. Alors, ça, c'était la première partie. L'autre partie, Paul nous dit de ne pas faire chuter son frère, et je pense que c'est l'essentiel du texte. Paul continue pour nous dire « Oui, vous avez raison, les idoles ne sont rien, la viande n'est pas mauvaise en soi, elle ne veut pas vous éloigner ou vous rapprocher de Dieu. » Mais voilà, des personnes mal affermies qui, en vous voyant faire pareil, que vous et encore attaché à l'idée que cette viande soit chargée d'idolâtrie, cela le ferait le chuter. Et là, c'est vous qui n'aurez pas la conscience tranquille, parce que désolé. De nos jours, ça pourrait être, par exemple, une personne qui écoute de la musique non croyante, non chrétienne, et ayant une place de trop pour un concert. Et ne voulant pas y aller seul, propose à une personne nouvellement croyante de l'accompagner. Le nouvellement croyant, mal affermi, pourrait retomber dans ses vieux démons par ce biais, par exemple. On peut en mesurer la gravité de cette faute quand on pense que Jésus il est mort pour cette personne. Christ a aimé ce frère au point de mourir pour lui. Et nous, que sommes-nous prêts à faire et nous, est-ce qu'on serait prêts à faire comme Jésus, ou alors, je vais refaire ma phrase. Désolé, je stresse un peu. Ça va aller. Donc, Christ a aimé ce frère au point de mourir pour lui. Et nous, que sommes-nous prêts à faire comme compromis pour lui ? En conclusion, Paul profite du sujet de la viande sacrifiée pour nous inciter à ne pas se centrer autour de vaines querelles, mais à veiller toujours à faire attention à nos frères et sœurs en Christ. Il nous dit que aimer, édifier une personne, passe par prendre soin de ne pas appuyer sur ses faiblesses, de peur de la faire chuter. Il y a un verset qui pourrait être à propos dans 1 Corinthiens 10, donc plus loin, de 23 à 24. « Vous êtes libre, mais tout ce qui est permis ne vous est pas utile. Recherchez d'abord l'édification et le bien des autres. » Proposer une bière, cela pourrait paraître anodin. Cela n'est pas mal pour un grand nombre. Mais pour certains qui luttent contre l'alcoolisme, cet acte pourrait leur conduire à pécher. Et cela marche pour beaucoup d'autres comportements. Par exemple, proposer de regarder un film qui, consciencieusement ou pas, possède des images tendancieuses. Pour une personne qui lutte contre la convoitise par les images, c'est pas ouf non plus. Pour éviter cela, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut connaître ses frères et sœurs. Et justement, les groupes de maison sont une bonne occasion pour ça. On peut parler de sujets plus intimes, se confier, partager nos luttes, nos faiblesses, et réciproquement, on peut apprendre à connaître nos frères et sœurs en Christ, apprendre leurs luttes, leurs faiblesses, pour pouvoir mieux les édifier, les encourager. Alors, en application, j'aimerais vous poser cette question, c'est est-ce que je prête vraiment souci de mes frères et sœurs? Est-ce que je me prête vraiment souci de... Est-ce que, par exemple, je vais, avant de leur préparer un repas, leur, me renseigner ou leur demander si des aliments sont, chutes, enfin, sont source de chute pour elles, par exemple la viande, le sucre, ou l'alcool, le gras, ou encore pour savoir quelle musique mettre, quelle activité proposer, et de vraiment me soucier à l'édifier et ne pas la faire chuter. Je propose de finir par la prière. Seigneur, je te remercie encore pour...